Bara jubba i det det för jamdam bom 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 bom.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour. Bon, ben, personne ne me répond, donc je suis seule aujourd'hui. Doris, Annette est à Paris, en fait, pour l'avant-première du film auquel elle a participé, de Noé Debré, qui parlait de la communauté libérale, tournée partiellement à Strasbourg, mais pas tout, qui parlait de la communauté libérale sur la base du livre de Delphine Orvilleur, « Vivre avec ses morts », qui est c'est une série quoi en différentes étapes et saisons, et voilà, elle assistait hier à l'avant-première en disant que c'était très intéressant, mais que ben comme toujours hein, tous les plans qui avaient été tournés à Strasbourg auxquels elle a participé ou d'autres ont participé des enfants n'ont pas été retenus ou très brièvement, mais c'est souvent comme ça au cinéma. Donc je suis seule et je vais continuer à parler, puisque nous approchons de Pourim, de ce livre fait de plusieurs récits, beaucoup de récits, qu'on a commencé à vous présenter la semaine dernière, de Yehoshua Perle, qui s'appelle « Juif ordinaire ». Je ne le connaissais pas du tout, mais après qu'on l'ait présenté la semaine dernière, je l'ai pris chez nous, parce qu'il appartenait à Doris, et je l'ai lu avec passion, je dois dire. Il est vraiment extraordinaire, je l'ai presque terminé. Ça raconte vraiment la vie de juifs ordinaires, de juifs de tous les jours, de juifs comme les autres. Ils ne sont ni riches, ni spécialement pauvres, ni rabbin, avec un statut un petit peu particulier, un petit peu protégé, un petit peu respecté, ni rien, des juifs comme les autres. Et c'est pas seulement la famille de ce jeune garçon qui raconte, mais c'est tout autour de lui, beaucoup de choses très intéressantes. Ça se passe dans les années 30, à peu près, 32, 30. Et c'est un jeune homme qui raconte. Alors, il a choisi un garçon qui aurait autour de 11, 12, 13, donc c'est déjà les émois de la préadolescence qui sont un petit peu présents. Il ne comprend rien aux manifestations de la sexualité, mais il le décrit. Et c'est intéressant de le comparer avec Shalom Aleichem, parce que les récits sont assez parallèles, assez semblables, mais chez Shalom Aleichem, on a tout le temps envie de rigoler, et chez Yehoshua Perle, j'ai presque envie de dire qu'on a tant envie de pleurer. Parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien, et c'est rare, mais quand même ça peut arriver, on sent qu'arrive à grands pas quelque chose qui va mettre tout par terre. Que ce soit un orage, que ce soit... Alors ce qui arrive deux fois dans ce que j'ai lu, et j'ai pas fini, c'est des pauvres femmes qui font des fausses couches. Mais comme ça, au vu et au su de tous, une c'est carrément dehors dans la neige, l'autre c'est d'ailleurs à la fin de ce que je vais raconter aujourd'hui, qui raconte la fête de Pourim et un Pourim Spiel. Je ne vais pas le lire d'ailleurs, mais c'est ce qui arrive à la fin, c'est toute cette joie, le plaisir de fêter Pourim, le festin, est arrêté par cette violence de la jeune femme qui fait une fausse couche. Oui, parce que chez Shalom Aleichem, peut-être ce qui le sauve de la gravité extrême, c'est que le jeune homme, le jeune garçon qui raconte, est très jeune encore, il a peut-être 8 ans. Ici, il est plus proche de la bar mitzvah, peut-être 11, 12, et donc, comme je l'ai dit, il est déjà plus un petit peu lui-même dans une espèce de sensualité à laquelle il ne comprend rien non plus à celle des autres, mais il voit ça, alors que l'enfant de 8 ans ne voit même pas ça. Ça rajoute à la gravité, au sérieux, mais c'est terriblement bien raconté, extrêmement bien raconté, beaucoup de dialogues, des très belles descriptions. J'ai vraiment trouvé ce livre passionnant, je vous le recommande. Donc Yehoshua Perle, Juif ordinaire, aux éditions Classique Jaune, texte du Monde. C'est une édition pas très courante, mais on la trouve. C'est suivi de l'anéantissement de la Varsovie juive et 4580. 4580, c'est le numéro qui a été attribué à ce Yehoshua Perl dans le ghetto de Varsovie, où donc une dizaine de milliers, je crois, de personnes ont eu ce numéro qui, soi-disant, allait les sauver de la déportation. Mais ça ne l'a sauvé de rien du tout. Alors, l'anéantissement, il raconte dans le détail la responsabilité du Judenrat, donc le conseil juif à qui on avait donné la responsabilité de choisir les personnes qui allaient être déportées. Enfin, il tombe très lourdement sur eux, il les dénonce violemment. Bon, j'ai pas tout lu parce que c'est presque insoutenable. Alors que tout le début sur ces juifs ordinaires est vraiment passionnant. Alors, je vais continuer à lire. On avait commencé en fait dans ce chapitre 19. C'est fait de beaucoup de chapitres. Il y en a combien? 30. 33 chapitres dans la première partie, première partie qui raconte différents événements. Ça se suit. On peut les lire séparément, mais en fait, ça se suit. L'histoire se termine et ça continue. Il faut les lire dans l'ordre. Donc, on avait commencé autour de Pourim les préparatifs. Donc, c'est l'enfant, le petit garçon qui raconte, qui va assister au Purimspiel. Et le Purimspiel ne raconte pas, en l'occurrence, l'histoire de Esther et Mardoché et Assuérus. Non, ça raconte l'histoire de Joseph vendu par ses frères. Et après quelques recherches, j'ai vu que souvent, cette histoire était racontée dans les premiers Purimspiel. Également l'histoire de Esther était racontée, mais également d'autres histoires sorties du Chumash, comme celle-ci, ou le sacrifice d'Isaac, ou Moïse et Pharaon, ou Jonas et la baleine. Pourquoi ? Pour ne pas irriter les autorités civiles ou ecclésiastiques, courroucées par les connotations antichrétiennes de certaines tirades du Purimspiel. Alors le Purimspiel, Purim se passe bien avant l'ère chrétienne, néanmoins, peut-être que ces autorités civiles et ecclésiastiques faisaient le parallèle quand on dénonce la méchanceté de Haman et le sort qui était fait aux Juifs sous l'Empire, dans ce récit. Peut-être que les autorités civiles et ecclésiastiques, comme je l'ai lu, prenaient la mouche. Du coup, on ne montait pas que l'histoire de Esther, mais également d'autres histoires, comme ici, l'histoire de Joseph et ses frères. Silence ! Que la peste soit sur vous ! Et le silence se fait. Jacob lève alors son bâton et déclame « Oyez, bonnes gens, voici ce que nous allons présenter devant vous. » Alors, ce sont des vers, souvent donc c'est traduit du yiddish, bien sûr, en vers également, c'est souvent des vers de Mirliton. Donc, ça donne ça. « En douce parole et beau refrain, à chanter à Pourim le vers en main, voici l'histoire de Joseph et de ses frères, qu'elle résonne en tout lieu, sur toute la terre. » Jacob ne se contente pas de déclamer ses vers, il les chante d'une voix nasillarde, moitié reniflement, moitié gênement. Arrivé au terme de son chant, il frappe dans ses mains et s'écrie devant une porte close. « Entrez, mes fils, entrez et venez devant votre père vous présenter. » Je ne sais pas s'il le disait aussi mal que moi, mais j'imagine. Les fils entrent deux par deux, Rouben et Siméon, puis Judas avec Issachar. Ils s'avancent avec raideur, comme s'ils avaient tous avalé un bâton. Voici le tour de Naphtali, qui trébuche comme si on l'avait poussé par derrière. Arrive ensuite Lévi, un jeune homme qui ressemble à un cadavre, qui ne sait pas quoi faire de ses mains, qu'il a longues et rouges. Comme ils sont beaux, les enfants de Jacob ainsi parés. Rouben porte une capote de soie noire munie d'une ceinture à la manière d'un chassid, des pantoufles et des bas blancs. Il ressemble à un rabbin. Ne lui manque que le grand chapeau bordé de fourrure. Siméon a revêtu une pelisse de cocher qu'il a mise à l'envers, côté ouatiné dehors. Judas, quant à lui, ressemble à un exécuteur des hautes œuvres. Qui d'autre, en effet, porterait ainsi une chemise rouge, s'il est saint d'esprit ? Et d'où sort-il une chemise rouge pareille ? En revanche, Issachar, avec son petit col blanc retourné et sa cravate, a tout du petit gendre entretenu par ses beaux-parents. À mon avis, c'est Benjamin qui aurait dû être habillé de cette façon, au lieu de porter ce chemisier de femme trop étroite et ses bottines lacées. Ils se mettent tous autour de la tombe. Ils ont les yeux écarquillés et leurs visages grimaçants sont à ce point enduits de maquillage qu'ils sont absolument méconnaissables. Mais voici qu'arrive Joseph en personne. Ce n'est pas seulement dans la Bible, mais sur scène aussi qu'il est différent de ses frères. Je sais qu'il s'agit de mon copain Yankel, celui aux taches de rousseur. Pourtant, aujourd'hui, il est très beau. Il est coiffé d'une calotte de velours comme un fils de rabbin. Ses courtes boucles de côté sont noires et brillantes. Je ne comprends pas comment il peut avoir de pareilles boucles, vu que d'abord, il n'en a jamais porté, et qu'ensuite, ses cheveux sont raides et plutôt blonds. Mais quelle importance, puisqu'il est beau. Sa chemise de soie bleue décolletée comme celle d'une fille sied à son visage. En revanche, je trouve dommage qu'on le fasse marcher pieds nus. Son bâton, lui non plus, n'est pas parfait. Il n'est pas recourbé en haut comme celui de Jacob. C'est un bâton tout à fait ordinaire, pas un bâton de la terre d'Israël. Voilà, on voit l'idée qu'il se faisait des bâtons de la terre d'Israël qui sont nécessairement différents de ceux de Radom. C'est là que se passe cette histoire, près de, enfin en Pologne. Après tout, c'est bien ainsi. L'important, c'est que tous les fils soient là et que le père puisse commencer pour de bon. Jacob les examine et s'adresse à eux en ces termes. « Écoutez, fils d'Israël, la puissance du Très-Haut est sans limite. Il se souvient des souffrances à moi infligées par Laban l'Araméen. À présent, mes fils, allez faire paître le bétail et pour que la mélancolie m'épargne, je garderai Joseph auprès de moi pour étudier la Torah. » Les fils s'en vont un par un. Seul reste Joseph. Demeuré avec son fils Joseph, Jacob grimpe sur un tabouret et se met à chanter avec une voix d'une tristesse infinie. « Va, presse le pas, cours, va voir s'ils font paître le bétail. » Joseph se prosterne devant son père et répond. « Père, père, je ferai selon ton désir, je cours voir mes frères et les fais revenir. » Jacob souffle la lampe à manchon, Joseph court voir ses frères et près du tombeau de Rachel, l'obscurité se fait. On ne sait pas si la pièce est déjà finie. Le public recommence à remuer et à protester. « Et Joseph, où est-il passé? Pourquoi traîne-t-il en route? Ma parole, avec le temps qu'il met, c'est lui qu'il faudrait envoyer chercher l'ange de la mort. » Après un court instant, les frères font leur réapparition. Ils tiennent leur bâton devant eux et marchent fièrement. Joseph a l'air tout petit et effrayé. Il a de quoi, le pauvre. En effet, un de ses frères s'avance, le visage sévère, les sourcils froncés, et dit « « frère Joseph, quel est ton désir? Pourquoi notre père t'a-t-il fait venir ?» Joseph s'assied alors sur le tabouret de peluche, celui-là même où les fiancés, au féminin, posent leurs pieds chaussés d'escarpins de cérémonie, se balance comme un étudiant penché sur le Talmud, et leur répond en ces termes. « Mes frères, écoutez ce que j'ai à vous dire, sans vouloir provoquer votre ire. » J'ai rêvé que nous étions au champ, à lier nos gerbes travaillant. Au moment de repartir, ma gerbe s'est dressée, puis Dieu à moi s'est adressé. Il m'a promis en gloire de m'élever, et devant la mienne, vos gerbes se sont inclinées. Le fameux rêve, le rêve qui rend fou de jalousie ses frères. À ces mots, Siméon s'avance dans sa pelouse de coucher et s'exclame avec colère. Écoute-toi, écoute bien! Tes rêves ne nous servent de rien. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est en finir avec toi dès à présent. » Le public, moi compris, retient son souffle. On sent déjà que la fin de Joseph est proche. Il descend de son tabouret, s'agenouille et les bras tendus, implorant ses frères, il chante. « Les anges verseront des larmes amères à voir un frère tuer son propre frère. » Alors, c'est tout le temps écrit « il chante », mais on ne sait pas sur quelle mélodie. Enfin, des fois, c'est repris, comme ils le disent, de la mélodie du Talmud, que les jeunes enfants étudiaient longuement. Moi, je n'arrive pas à le faire immédiatement avec ce texte-là. Moi, j'entends plutôt des vers prononcés comme quand on récite des enfants qui n'ont pas été bien dirigés, récitent les fables de La Fontaine. Alors, on va en profiter pour faire une petite pause musicale, faire entendre. Alors, cette fois-ci, je mets en honneur le fameux premier disque des Yiddish Mamas et Papas, où il y a deux titres qu'on a repris des Barry Sisters. La dernière fois, je les ai fait entendre par les Barry Sisters, cette fois-ci par les Yiddish Mamas et Papas. Voici Chiribim, Chiribum. «
chili bim, chili bom, chili bim bom 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 bom. Skabben scheu die Beuken, struben die Trompeten. Es sind nicht doch kein Fiddle, mecken mit Rappheuchbeten. Ihr singt bei euch die alten Lieder, sein soll nicht verklingen. Der Deut ist lang, das Leben ist kurz, du lass mir alle singen. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, hey, chiribim, ho, chiribim, bom, 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 bom. Es ist schon friedlich heute Nacht, wir werden schon bald nicht turnen. Der Rebbe hat's im Städterle noch weiter rein zu fahren. Nimm der Rebbe Himmelschwert, dem Pferd in dem Schlitten. Auf einer Seite Schabbes, die zweite Seite Sturm, noch weiter rein in Mitten.
En soliste Patrick Labiche et sa voix de ténor qui monte et qui est tellement expressive. Donc on en est à ce moment où Joseph supplie ses frères de ne pas le tuer. Mais Siméon est un méchant et d'un geste furieux, il frappe le sol de son long bâton. « mes frères, il faut voiter de sa tunique, il faut le dépouiller. Dans ce puits, jetons-le vivement et abandonnons-le séant. » Joseph lève alors les bras au ciel et supplie Dieu de sceller la gueule des serpents et des scorpions pour qu'ils ne puissent pas lui faire de mal. Les frères empoignent Joseph et le jettent dans la fosse aux lions qui se trouve derrière le tombeau de Rachel, puis se mettent à manger et boire. Tandis qu'ils se restaurent, surgissent de l'autre pièce les Ismaélites. Ils sont 7, de haute taille, avec des barbes de lin, de gros nez rouges et la tête coiffée d'une serviette enroulée. Siméon se lève à nouveau, s'incline devant les marchands et leur adresse ce discours. « Seigneur, qui venez de lointaines contrées, achetez-nous, si le prix vous agrée, Joseph, cet homme ici présent, il vous en coûtera 20 pièces d'argent. » Sans barguigner, les Ismaélites paient immédiatement les 20 pièces d'argent. Joseph a dû entendre ces tractations depuis la fosse au lion, car aussitôt il chante d'une voix pleine de sanglots. « Mère, mère, prête l'oreille à mes pleurs. « Viens à mon secours dans mon malheur. Entends, je te supplie, ma triste prière. Accours, me délivrer de mes frères. » Je voulais signaler à cet endroit-là l'excellence de la traduction de Jean Spector, pas seulement les rimes, là, mais tout le long, toutes ces tournures propres au yiddish qui sont tellement difficiles à traduire, qui souvent, dans la traduction, sentent vraiment la traduction. Là, il les a intégrés dans un français coulant et fluide, vraiment la traduction est formidable. La pierre tombale commence à remuer. Je sens, comme sans doute le public tout entier, un frisson glacé me parcourir. De derrière le tombeau surgit alors une apparition recouverte d'une tunique blanche et le visage voilé de tulle, comme une fiancée au moment de ses noces. L'apparition tremble comme une feuille. Tout le monde sait qu'il s'agit de Sheva, la couturière, qui connaît des chansons, où l'on parle d'amour, d'orphelin et de roses sur le chemin. Le silence est tel dans la salle qu'on entendrait une mouche voler. Sheva semble plus grande que d'habitude. Elle s'appuie d'une main sur sa propre tombe et chante d'une voix brisée. « Joseph, mon fils chéri, j'entends tes pleurs. Ils font saigner mon cœur. Malheur à moi, quel triste sort. Pourquoi tes frères veulent-ils ta mort ?» Les fils de Jacob se retirent lentement à la queue leu-leu. Sur la scène, Rachel reste seule face aux Ismaélites. Elle tend les bras vers eux Et c'est une mère en sanglots qui les supplie. « Malheur à moi, bonnes gens, ayez pitié de mon enfant. Entendez ma plainte, voyez mon tourment. Ils sont frères, une même chair, un même sang. » Mais les Ismaélites ne comprennent pas le yiddish. Et le frère rentre chez eux, rapporté à Jacob qu'une bête sauvage a dévoré son fils Joseph. Quant aux Ismaélites qui viennent de débourser 20 pièces d'argent, quelle compassion peut-on attendre d'eux pour la pauvre Rachel ? Elle a beau chanter et supplier, il lie Joseph et l'emmène comme on ferait d'un mouton. Il se passe alors quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. À peine Sheva, la couturière, entreprend-elle de redescendre dans son tombeau, qu'il se fait un grand remue-ménage dans la salle. On trépigne, on se rue vers la porte. Une fois dehors, venant de là-bas, où se sont regroupées perruques de bonne femme et chapeaux d'homme, on entend un gémissement, un cri de femme. « Malheur à moi ! Au secours !» Voilà, et là, ça, je ne vais pas le lire, mais c'est une, il y a une opposition violente entre cette joie, ce Purim Spiel, donc l'histoire de Joseph tellement bien racontée en vers de Mirliton, et le charme de cette histoire jouée par des personnages auxquels personne ne croit. Enfin, c'est vraiment charmant, et là, ce qui va se passer, à savoir une femme fait une fausse couche, carrément, comme ça, en plein milieu de ce jour de Purim. Voilà. Alors, oui, ce que je veux dire encore, c'est que la scène du spectacle yiddish, avec le public qui est là et qui, dès qu'il s'ennuie un petit peu, le manifeste lourdement, comme c'est dit à un moment, là, la salle tout de suite se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il a qu'à retourner chez lui. » est également raconté chez Sholom Aleichem. Bon, ici, on ne peut pas dire que ce soit tragique, ça fait partie du côté très très vivant de la scène. Mais c'est quelque chose que raconte aussi Sholom Aleichem. Voilà, ben je ne peux que vous conseiller de lire Joshua Perl. Et pour terminer, je vais faire entendre donc un autre extrait du disque des Yiddish Mamas et Papas, Ayay Ora. Il n'y a pas de texte, c'est que du Ayay Ora. C'était le premier morceau qui ouvrait le spectacle. Et sur ce, je vous dis Shalom Aleichem. Merci Thomas et à la semaine prochaine.